Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des portes. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux grâce à Histoire de succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Teamed Up, qui sort à 26 ans à peine son troisième album intitulé La Course Folle, ce vendredi 11 juin 2021, soit environ le lendemain de la sortie de cet épisode. On discute avec lui de ses débuts dans la musique à 7 ans, comment il s'est mis très naturellement à vouloir composer ses propres chansons alors qu'il était encore tout gamin, et la façon dont il s'est invité dans les salles de concert parisiennes alors qu'il était encore étudiant. On parle aussi de son nouvel album qui est sorti à peine un an après Quand restera-t-il, son dernier opus qui était lui sorti juste avant le premier confinement. Pourquoi a-t-il laissé si peu de temps entre ces deux productions? On en discute ensemble. On parle aussi d'engagement associatif et de plein d'autres sujets dans cette discussion très enlevée avec Tim. Merci à lui et allez découvrir son nouvel album. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Bonne écoute à vous et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, 6h du matin. On est avec Tim Dup. Salut Tim.
Hello, hello Fabrice.
Ça va?
Ouais, super.
T'es tranquille là? T'es installé?
Je suis impeccable sur ton canapé avec une délicieuse infusion aux graines de sarrasin.
La classe.
Ouais, trop bien.
T'as passé le permis cette semaine, c'est ça?
Non.
Tu devais passer le permis.
Non, non, j'ai
des mauvaises infos.
Je suis en première révision de code. Donc non, c'est le chemin est long encore, le chemin est terriblement long, mais du coup je me suis quand même mis un petit coup de pied au derrière et là je commence. J'ai le permis bateau, ce qui est moins utile à Paris.
Ouais. Pour la scène.
Non mais en vrai c'est un de mes rêves un jour, c'est d'avoir un petit bateau pas très loin que tu peux accoster sur la scène. Et en fait, t'emmènes ta mif et tes potes, je sais pas, faire un apéro, tu sais, en face du Louvre ou de Notre-Dame, feu Notre-Dame. Mmh. Mais j'aimerais bien. Mais du coup, bon, quand même, je me suis dit qu'il fallait... peut-être que ça fera de moi, finalement, un adulte accompli.
J'allais dire, t'as 26, c'est
26, ça ?
Ouais, c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait que tu l'as jamais passé avant ? Rien à voir, hein, vraiment.
Le moment où t'as le temps, c'est le lycée, en fait.
Ouais.
Et mes parents considéraient que j'étais pas assez raisonnable.
Ah ouais?
Ouais.
C'est marrant.
Ouais, que je manquais un peu de maturité pour passer le permis. D'un point de vue, je sais pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que je sais même pas à quoi ça tient, ce truc-là. Puis il devait se dire, il est foufou ou. Il va pas être prudent, tu vois.
Ok.
Alors qu'en fait, ça m'aurait permis de gagner des années. Maintenant que je suis à Paris et que j'habite Paris, en fait, c'est là où c'est compliqué. Comme t'en as plus besoin,
bah ouais, ouais.
Tu fais plus l'effort.
Ok. On va en reparler de tes parents qui te... Tu vois, sur
tu
une question
bribes.
Complètement anodine...
Oui,
on,
comme quoi,
on
la pelote commence.
Ah oui, alors vraiment, ça c'est la pelote. C'est-à-dire qu'on va tirer la pelote et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Tim, quand t'avais 7-8 ans?
Alors, 7-8 ans. Pour visualiser une classe, 7-8 ans, t'es quoi ? CM1
CE1, ah CE2, je crois.
Ouais, 7-8 ans. C'est intéressant parce que le CE1, c'est une classe un peu tournant pour moi. Où, je pense que je suis pas mauvais élève. Mais en CE1, je tombe sur une prof, une instite. Très bonne instite au demeurant, mais qui nous fait énormément travailler. Et j'ai des souvenirs vraiment de travail laborieux, dans le sens ça prend du temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges de travail. Et en fait, je crois que ça m'a dégoûté pour longtemps.
De l'école
Je sais pas de l'école, mais en tout cas, peut-être de l'effort, tu vois. Avant ça, j'étais, je crois, un enfant, en tout cas d'après ce que disent mes parents, parce qu'évidemment, les souvenirs passent aussi par eux, très consciencieux, qui prenait le temps. Tu vois, j'aimais bien ne pas faire dépasser mes coloriages, bien écrire. Et puis après, ça s'est gâté. Et je crois que le moment charnière se situe à 7-8 ans. Mais sinon, j'étais un petit gars qui aimait bien bouger. Je faisais beaucoup de sport.
Tu faisais quoi comme sport ?
En CE1, je faisais du tennis.
Ok.
Ouais, beaucoup. Et j'ai toujours eu besoin de cette soupape pour extérioriser, tu vois. Avant même de pouvoir exprimer ou extérioriser par la création, c'était aussi par le corps, quoi.
Ok. Et tu disais que cette prof-là, elle t'avait... Cet instinct, en tout cas, elle t'avait dégoûté un peu de l'effort, c'est ça ? C'est-à-dire qu'après,
ouais, du goût de l'effort, du goût du travail. Après, en fait, je crois que c'était un peu incompatible avec ma personnalité, où j'avais besoin de prendre le temps de comprendre, de saisir, de regarder. Ce qui est d'ailleurs aussi assez intéressant, parce que tu vois, quand derrière tu développes une personnalité artistique, c'est souvent lié aussi à ça, à est-ce qu'on est lunaire ou pas. Et j'aime bien, je sais plus, je crois que c'est Bergson qui parle de ça, du paradoxe de l'artiste distrait. Et il décrit justement qu'une personnalité artistique, souvent, c'est aussi des gens un peu en l'air, quoi. Et je me souviens qu'à cet âge-là, j'étais très dans la lune déjà, en classe. Et... ouais.
Donc c'était dur pour toi de te raccrocher au...
Ouais, je pense, un fil de rigueur et de sérieux, quoi.
Ok.
Ouais.
Comment ça se passe tes années collège après ? C'est compliqué l'école ? Ça te fait un peu chier ou...
Je pense que j'ai à la fois un peu de chance, parce que j'ai des facilités, je dirais, tu vois, d'apprentissage, ou aussi de retenir. De mémoire, ce qui m'a aidé beaucoup aussi dans mon apprentissage du piano, parce que j'étais très flemmard. Et pour le coup, j'avais une prof formidable que j'ai suivie jusqu'à mon bac et qui a eu beaucoup de patience pour le coup. Et je l'en remercie parce qu'elle avait compris, tu vois, ce souci que j'avais de flâner, en fait. Et on digresse beaucoup, mais bon, du coup, ouais, je bossais, tu vois, mon piano. Surtout en cours, et théoriquement tu es censé travailler chez toi après, ce que je faisais peu, et je préférais en fait bénéficier de ces acquis-là pour ensuite déjà improviser. Et donc j'ai développé un kiff pour l'impro très vite, parce que ce qui me plaisait, c'était plutôt de créer plutôt que de restituer la connaissance. Et en même temps, évidemment, que on en reparlera peut-être, mais l'art ne peut pas échapper à la notion de technique et d'apprentissage et de travail aussi.
Ça, j'imagine.
Ouais.
Tu t'es mis quand au piano ? Parce que donc t'as commencé par le piano,
c'est ça ? À 7 ans, justement. Okay. Tu vois, on parlait des 7 ans, bah piano à 7 ans.
Qu'est-ce qui fait que tes parents te mettent au piano ? Ils sont eux-mêmes pianistes ou...
Non, ils sont pas musiciens. Il n'y a pas... Il n'y a aucun musicien dans la famille.
Ah ouais, okay.
Et je pense que ça vient de ça, surtout de par mon père, d'une fibre artistique qu'il a en lui, très clairement. Mais je crois qu'il n'a jamais pu exploiter. Et donc, je crois que ça vient d'un manque, tu vois, de ne pas avoir pu faire d'un instrument, de ne pas avoir trouvé son médium d'expression. Et je crois qu'il nous a tous poussés, ma sœur et mes frères, à développer ça, ou en tout cas à essayer. Et je suis le seul qui n'est pas lâché, quoi.
Ils font quoi comme métier, tes parents, ou ils faisaient quoi à l'époque?
Mon père, à l'époque, était déjà dans le milieu pharmaceutique, mais plutôt journalistique. Il travaillait dans un magazine pour visiteurs médicaux.
Okay.
Et ma mère était institutrice en maternelle.
Ok, donc effectivement, rien à voir avec, avec l'art a priori, quoi.
Non.
Okay. Ouais.
Et pour relier aux années collège, ça me fait penser à ça parce que ma maman était instite dans le même établissement que moi au collège. Et ce qui a ensuite développé aussi des complications.
Ouais, mais je crois que c'est à la fois cool d'avoir ta mère qui est prof au collège, et il y a un aspect pas cool non plus, quoi.
Non, c'est pas toujours cool. Moi, mes années collège, en fait, je pense que j'en faisais des caisses, un peu.
Des caisses de quoi?
Des caisses de... des caisses de... je voulais qu'on... En fait, j'étais tout petit. J'ai été petit très longtemps. Ouais. Et donc, j'ai grandi tard. Et ce truc-là m'a toujours suivi. Et c'est marrant parce que même aujourd'hui, dans la musique, tu vois, souvent, on m'accole cette étiquette un peu de juvénilité. En tout cas, d'apparence.
Tu fais jeune, en fait.
Ouais, bien sûr. Mais je mesure aujourd'hui que c'est une chance. Mmh. Mais à l'époque, quand tu grandis et que tes copains, ils commencent déjà tous à avoir deux têtes de plus que toi et que... et qui sont dans un truc... je sais pas si on appelle ça de la virilité à cet âge-là, mais en tout cas, tu vois, de mise en avant de ces attributs de petit gars qui grandit.
Il y a Yvan Jablonka qui parle de garçonnitude. Je trouve que c'est plutôt
cool. C'est intéressant,
cool.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai.
C'est ça, tu vois, t'es en train de te transformer en homme en étant un petit garçon.
Exactement.
Quoi.
Sauf que moi, je me transformais pas encore. Et du coup, tu te retrouves un peu en décalage, et je pense que j'ai, ces années collège-là, j'ai, voilà, je faisais mon intéressant, tu vois, un peu. J'avais ce côté petit con parce que je faisais des bêtises, je voulais qu'on me remarque.
Ouais. Ok. Je vais tirer un fil parce que tu sais, donc j'ai cet autre podcast qui parle de masculinité.
Ouais.
Et est-ce que t'as la sensation, toi, que ça a créé chez toi une peut-être une vocation aussi, ou un truc de pouvoir sortir du lot de ce fait-là, d'être dans les petits mecs, tu vois, de te dire ok, c'est quoi mon terrain d'expression dans lequel je pourrais aller, quoi.
Ouais, je crois. Je crois que le fil s'est fait comme ça parce que notamment mon rapport aux filles, rapport amoureux, mon rapport sentimental, tu vois. Moi, je suis un mec cis et à ce moment-là, en fait, c'est marrant parce que ça s'est aussi retrouvé dans mes chansons, dans les premières chansons que j'ai écrites. J'ai commencé par être justement un petit gars, un peu plus petit que les autres, qui avait des sentiments à revendre et qui était amoureux transi toutes les semaines. Et tu vois, avec cette envie, quand j'étais amoureux, de le dire et de mettre des mots là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première chanson en cinquième. Pour mon amoureuse génial. De l'époque, Laura, qui est une super copine encore aujourd'hui. C'est marrant. Et je lui ai fait cette première chanson, quoi. Et qui était très à l'eau de rose, évidemment. Et derrière, en fait...
Attends.
Ouais,
pour terminer sur cette chanson,
yes.
Tu fais quoi alors? Tu lui écris des paroles? Tu lui composes une musique? Tu fais quoi?
Alors, j'écris un texte, d'abord. La chanson s'appelait « Elle ». Mec par la troisième personne, déjà ça marche pas, tu vois. Et j'écris cette chanson et je me dis que ça va forcément être plus impactant, ou en tout cas déverser plus d'émotions avec une musique qui va avec. Et du coup, je l'ai chantée et je me rappelle, j'apprenais Imagine de John Lennon à ce moment-là au piano. Et c'est Do majeur, tu vois, donc gamme assez solaire et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais la passer en mineur. Et en La mineur, bref, j'ai un peu transposé ça avec le même motif de rythme. Et c'est comme ça que m'est venue la chanson. Et je lui ai chanté à... Il y avait une brocante dans notre village à côté. Et elle avait un stand d'exposition. Et j'avais ma meilleure pote qui avait une maison à côté, et du coup je m'étais arrangé pour qu'elle vienne chez ma pote parce qu'il y avait un piano, et je lui avais chanté en direct. Et
Ça marche.
Et j'avais fait un carton.
T'as conclu? Non, mais c'est vrai, t'as conclu ou pas?
Est-ce qu'on conclut à cet âge-là? Je
un
sais
cinquième,
pas.
Ouais, on se fait au moins des bisous, non?
Ouais. Ça a découlé derrière sur, sur des bisous un an après, je crois.
Ah
ça
ouais.
a pris son temps.
Ok. Tu vois.
Mais voilà, du coup, je suis ce petit gars-là qui fait des chansons à l'eau de rose. Et puis, ça, je nourris un rapport sentimental très, très béat, je pense, un peu idéalisé, tu vois.
Ça te vient d'où, toi, ce côté à l'eau de rose, romantique, tout ça?
Bah, en tout cas, c'est peut-être une vision de l'amour que j'avais, peut-être de par mes parents. Où on a quand même cette image-là. Moi, j'ai grandi avec cette image-là. Je connais pas le divorce, tu vois. Donc, forcément, en tant qu'enfant, ça te projette aussi sur une certaine idée de perfection du couple, etc. Et derrière, je me suis pris pas mal de bâches par des meufs au collège et tout, parce qu'elles attendaient pas ça. Elles attendaient, une garçonnité, tu vois,
garçonnitude
ou en tout cas une certaine masculinité, tu vois, que j'avais pas su développer. Et donc c'est rigolo parce que derrière j'ai écrit des chansons un peu en retour de ça, des chansons un peu coup de poing en mode les filles, ça va pas du tout, vous êtes
les filles, vous êtes nulles, c'est ça?
Ouais, c'est ça, en plus violent, tu vois.
Ah.
Et
c'est ado.
Bah ouais. Mais même il y a une chanson sur mon premier disque qui s'appelle Mortel Habanera qui va un peu dans ces aspects, tu vois, d'ombre, où j'avais fait cette métaphore de Carmen de l'opéra et c'est Don José, je crois, qui finalement, tu vois, finit par céder à ce geste de fin, quoi, de tuerie pour emmener l'amour avec lui. Et j'étais un peu dans ce rapport-là, quoi. Donc, à la fois un peu tragique et un peu problématique parce que, mais qui était lié aussi à
ton histoire.
À mon histoire et peut-être même au fait que on n'était pas encore tout à fait déconstruits de part et d'autre. Et je trouve ça trop bien aujourd'hui, justement, que...
C'était quand cette... ton premier album 2017, hein, c'est
ouais.
ça okay.
Qu'il y ait cette déconstruction qui s'opère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas... Enfin, tu vois, j'ai... À la fois, j'ai une certaine virilité en moi, et en même temps, j'ai aussi une énorme part de sensibilité, mais que j'aime, quoi, et que je chéris, au contraire.
Comment
ce qui n'était pas le cas avant.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Comment t'as fait pour l'accepter, cette part de sensibilité, alors?
Bah, je pense qu'il y a il y a des âges où elle est bienvenue. Peut-être pas dans cette construction dont on parlait des années collège, tu vois. Mais en fait, en ayant un peu plus d'années derrière, c'est là qu'elle redevient, elle redevient cool, quoi. Parce que tout le monde est sorti du manichéisme. Enfin, je sais pas.
Parce que, attends, 2017, t'avais quoi? T'avais donc 22 ans, quoi, c'est
ouais.
ça? Ok. Bon, t'es pas beau. Enfin, en vrai, t'es pas beaucoup plus vieux, quoi. Tu vois, t'as pas 40 balais où tu pourrais te dire, ok,
non,
j'ai fait du chemin.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais entre 21 et 15, t'as quand même un petit step, notamment, tu vois. Bah, tu fais des études après le bac, rien que ça, je trouve que ça... Moi, j'ai pris des... C'est marrant, je trouve qu'il y a des leviers de conscience dans une vie. Et je saurais les placer, tu
Alors,
vois.
Alors, vas-y.
Et j'en ai peu parce que...
Oui.
Enfin, si, j'en ai quand même quelques-uns, mais évidemment que... Il m'en attend encore 50 des paliers.
On va revenir
mais...
sur ton parcours. Alors, si ouais. tu... Bien sûr qu'il t'en reste. J'espère
mais bien
pour toi.
Sûr, bah, j'espère.
J'espère, sinon,
sinon
c'est chiant.
C'est chiant la vie. Sinon.
Ouais. Mais donc, revenons un peu. Donc, collège, c'est compliqué avec les meufs. C'est compliqué avec les autres mecs aussi, j'imagine. Parce que les autres mecs te renvoient peut-être une image qui est pas très cool, quoi.
Bah ouais. Ouais. Après, j'ai des copains aussi. Et ça se passe bien. Tu vois, côté amitié, c'est cool. J'ai gardé une bande de copains du collège-lycée.
Okay.
Et on est 20 dedans. Et c'est toujours l'amour, quoi. Et donc ça, je me sens très chanceux de ça. Donc finalement, côté amitié, ça va. Mais oui, il y avait ce truc, j'étais le petit gars, tu vois, de la bande, un peu.
Ouais. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-cinés, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Est-ce que t'as la sensation que ça t'a donné du fuel aussi, tu vois, pour percer aujourd'hui. Est-ce que tu as la sensation que, justement, tu vois, ces années qui ont été un peu compliquées, ou peut-être on te renvoyait une image pas très cool, avec le recul, tu te dis, bah, c'est peut-être ça aussi qui m'a incité à aller percer, tu vois, aller faire une carrière peut-être d'artiste, de me retrouver à la télé, tu vois, de prendre la parole, en fait, tu vois. Est-ce que tu as cette sensation-là ?
J'ai la sensation que ça a nourri une création. En tout cas, l'envie de mettre des mots, d'exprimer des choses. Et l'envie, au début, peut-être d'un regard. Ouais, tu vois, je me vois en seconde, première fête de la musique à Rambouillet. Il y avait de cette idée-là, d'être un peu le boys band du lycée. Tu vois, il y avait ce truc-là. Mais qui s'est paradoxalement déplacé ensuite. Quand, en fait, ça a commencé à fonctionner, entre guillemets, ou en tout cas, tu vois, à ce que je puisse entrevoir l'idée d'en faire éventuellement un métier, c'est à ce moment-là où l'image m'a fait peur. Et, j'ai plus du tout eu envie qu'on puisse me voir ou me regarder. Et c'est drôle parce que TER Centre, la première chanson que j'ai sortie, j'ai fait un clip où je suis de dos. Et au début, tu vois, ça a été un chemin, en fait, aussi.
De montrer ton visage, tu
veux
dire ?
Ouais, okay. Ouais. Alors que, ça y est, je pouvais enfin le faire. Ouais. Mais paradoxalement...
Qu'est-ce qui te faisait peur ? C'est la notoriété ou...
Ouais, déjà ça. Et ouais, surtout ça. J'avais l'impression qu'en montrant mon visage, j'allais tout donner, tu vois. Et du coup aussi que ça donnait une importance à une apparence. Et d'ailleurs, on s'y trompe jamais. L'apparence reste toujours et on te parle toujours de ça. On retient toujours l'aspect physique, la première fois où tu as vu quelqu'un. C'est quand même ce qui ressort régulièrement. En tout cas, quand on veut aller vite.
Comment ça ?
Bah, quand on fait pas trop d'efforts pour pousser plus loin, quoi.
Ah, tu veux dire on s'arrête au
ouais,
la première impression ?
Oui. Okay. Moi le premier, hein, mais
bon, on est tous.
Mais ça va mieux, je crois.
Tu veux dire que tu essaies de travailler là-dessus justement ?
Oui. À la fois sur mon image, tu vois, où j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça, parce que il faut aussi le prendre avec distance et simplicité. Il y avait aussi quelque part, au bout d'un moment, je me suis dit, fais gaffe à pas être trop prétentieux non plus, tu vois, en mode, ah non, je veux pas qu'on me voit, parce que, enfin, il peut y avoir de ça. Ça peut être de la protection, mais il fallait pas que ça tombe dans ce côté, tu vois, un peu alambiqué, un peu trop cérébral de.
Ok. Parce que tu sais, il y a les Daft Punk par exemple, tu vois, qui ont caché leur tête le plus possible pendant le plus longtemps possible, etc. Il y a Cascadeur aussi avec un masque de.
Il y avait Fauve qui montraient pas leur image, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est des groupes souvent, ou alors ils font de la musique qui, tu vois, Cascadeur, c'est de l'électro, donc il y a, je dirais qu'il y a eu un univers, une cinématographie autour de ça qui s'y prête. Quand tu fais des chansons en français qui parlent du monde et un peu de toi et de tes sensations, c'est difficile d'être masqué quand même.
Oui.
Mais ça peut être simple. Moi, il y a les artistes qui m'inspirent là-dedans, c'est des gens très simples et qui sont restés dans un rapport comme ça. Et je crois que les gens les emmerdent pas, tu vois. Je pense à Vincent Delerme, ah. Alain Souchon. C'est des artistes populaires, vraiment. Mais je suis sûr qu'ils sont pas embêtés dans leur vie, tu vois.
Bah, ils se font forcément arrêter dans la rue pour faire des photos.
Il y a forcément des quelques oui bien sûr quelques aspects magiques que tu renvoies qui t'échappent, mais je crois vraiment qu'ils ont et peut-être que c'est lié aussi à leur personnalité. Quand tu montres cette personnalité simple et sans artifice, ton public ressemble à ça aussi. Je crois. Hein. Enfin, ça me paraît évident, mais du coup, les gens qui nous écoutent, qui t'écoutent, qui m'écoutent moi, ou qui regardent tel ou tel film, le font parce qu'ils ont la sensibilité de la personne, et donc finalement, c'est ça qui est merveilleux. C'est, ça reste une espèce de famille qui s'agrandit à chaque fois, quoi.
Ouais, je comprends. C'est marrant parce que j'ai vu une interview de toi où tu cites genre des stars avec qui tu voudrais passer un moment, et je crois que tu cites Lucchini et Edouard Baird qui sont à l'opposé pour le coup, qui sont vraiment des
c'est des persos un peu exubérants mais qui restent dans une grande authenticité, je trouve.
Ok, c'est plutôt cet aspect-là qui t'inspire plutôt que le côté
Bah oui, en même temps, il y a le côté un peu clownesque, tu vois, mais brillant. Le clown merveilleux, évidemment qu'on a tous envie de passer un dîner avec Edouard Baird et qu'il fasse le show, tu vois.
Oui.
ce serait trop bien. Mais d'ailleurs, ça a été marrant, tu vois, au culot, j'ai envoyé pendant le confinement un message sa manager, j'ai trouvé le numéro, je sais plus trop comment, en lui disant j'adore Edouard Baird et j'écoute souvent Lumière dans la nuit sur Inter.
Quel bonheur.
Je vois que parfois vous invitez des artistes. Si un soir vous avez besoin d'un morceau de piano et tout, moi je suis trop chaud. Ouais. Et j'y suis allé, il m'a invité, tu vois. Donc, comme quoi, c'est ça aussi, cette simplicité-là. Oui, il y a tout ce qu'on connaît d'Edouard et tout, mais il y a aussi ce côté où mec qui veut partager, t'écoutes Lumière dans la nuit, c'est un tel bordel.
J'invite tous les gens qui n'ont pas encore écouté Lumière dans la nuit
se connecter.
Les replays sont sur genre l'appli Radio France, quoi. C'est canon, quoi.
Et puis sur toutes les plateformes de streaming aussi, podcast, tout ça. Donc c'est sympa. Et c'est l'anarchie. Et donc c'est un gars qui, je pense, qui est curieux de rencontre. Et c'est cool.
Je profite pour faire une petite promo du dernier podcast qu'il a sorti. Je ne sais pas si tu as écouté, où il part à la recherche de Benoît Poulvord avec Jacques Souvent au Sénégal.
J'ai écouté un extrait. Ça a l'air terrible.
C'est fabuleux. Vraiment, en 6 épisodes qui durent 40 minutes, donc en plus c'est long, quoi.
Ouais, ouais.
Où ils vont, derrière ce prétexte, alors c'est bizarre parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment des vraies interviews, si tu veux, puis tu sens qu'il y a des trucs aussi qui sont joués. Enfin, c'est assez étonnant, en fait, comme format.
Ouais, c'est génial.
Bon, c'est Edouard Baird, quoi. Mais revenons à toi, parce qu'on est là pour parler de toi aussi. Mais donc, pour revenir un petit peu à ton parcours aussi, je me demandais, donc depuis le collège, quand est-ce que tu commences à te dire, ok, peut-être ça peut prendre dans ta vie ?
La musique ?
Ouais.
Assez vite, comme je te disais, il y a cette révélation où je me dis que j'arrive à créer et que ça me fait du bien et que ça me fait kiffer, quoi. Il y a cette notion de plaisir dont je prends énormément conscience dans le nouveau disque là aussi. Cette notion de plaisir, tu vois.
Ça se sent.
Et en fait, ça part de ça. Ça part d'une passion de gamin. Et ensuite, je crois que c'est marrant, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, en fait, ça a été la scène, l'envie à tout prix de jouer, de faire des concerts. Et donc, qui était lié, je crois, à un désir d'effervescence, de direct, d'adrénaline, un truc très vivant. Et après, je me souviens en seconde, première, avec un pote, j'avais fait des maquettes et j'avais gravé mes CD sur mon graveur, machin. J'avais écrit au marqueur je sais même plus, je crois que j'avais mis team dubs avec des points, des tirés, tu sais, genre un truc illisible, ça ne, c'était pas encore très mûri. Et je suis allé mettre ça dans les boîtes aux lettres de plein de maisons de disques à Paris en première. Et j'ai jamais eu de réponse, mais fort heureusement, parce que c'était vraiment nul. Mais en tout cas, il y avait déjà ce...
Ça t'a pas dégoûté?
Non.
Non, mais je sais pas.
Bah non, j'en attendais pas énormément, okay. Tu vois. Enfin, en vrai, si, je pense qu'au fond de moi, j'en attendais énormément. Mais
franchement, tu t'enregistres, tu fais des maquettes, t'enregistres et tout, tu te fais chier à graver les trucs, tu vas jusque chez eux.
Ouais, dans chaque endroit de Paris, tu
voilà,
vois.
Voilà, donc c'est,
je me rappelle,
très
on
éparpillé.
On prenait le métro, tu vois, j'étais au lycée, j'avais mes tickets, bref. C'était un peu le... Ouais, c'était
un
grand projet quand même.
Zéro retour, franchement.
Non.
Tu disais que t'avais pris des bâches avec les meufs et tout, c'est pareil, quoi.
Ah bah oui, mais c'est ce qui donne de la résilience. Et c'est ça qui est, ça pour le coup, très très vite, quand tu veux faire ce métier, ou en tout cas, quand, oui, l'idée te plaît, clairement, il faut s'attendre à ça, quoi. Et heureusement, d'ailleurs, peut-être, parce que c'est sain aussi de, bah, que ça marche pas, que ce soit difficile. Si tout était évident, déjà, il y aurait plus de saveur à ce qu'on entreprend. Et puis, on n'apprend pas. Enfin, tu vois, la preuve, c'est que si on m'a pas répondu, il y a que moi hein, qui puisse me remettre en cause. C'est pas les autres.
Ouais,
c'est juste
sûr.
Que c'était nul. Et du coup, peut-être que ça m'a servi. Au contraire, ça m'a donné encore plus envie de travailler, de refaire à nouveau. Et en rentrant à la fac, je me suis remis à écrire des chansons version plutôt piano-voix. Et là, à nouveau, ce désir d'aller sur scène.
Okay.
Et donc, j'ai contacté des bars, des salons de thé, des restos, des cafés. Et j'ai joué pendant les vacances scolaires. Je faisais du piano bar en Normandie. Et sinon, je commençais à jouer mes chansons dans des cafés, dans des bars. Il y avait mes potes et mes parents.
Et tu disais que tu jouais que du piano, tu chantais pas?
Si, je chantais.
Okay,
ouais, Normandie, c'était juste du piano bar. Donc. Dans un resto à Houlgate, Franck, que je salue,
si tu nous écoutes,
qui a un super resto qui s'appelle Léa à Houlgate et qui m'a donné, tu vois, l'opportunité. Il faut quelques francs dans une vie et après c'est des hasards que tu provoques parce que j'envoyais des mails à un peu tout le monde et donc voilà cette envie de scène.
C'est quoi,
tout part de là.
Et alors, c'est quoi ta première scène?
Bah, ma première scène, alors, comment tu considères, s'il y a,
est-ce que la fête de la musique, c'est une première scène ou pas? C'est ça que t'es
ouais, dit. Ouais, ouais, quand même. Ah, bah, si.
Bien sûr.
Parce que t'as un rapport au public et tout, tu sens que c'est vivant. On appelle ça, pas ça du spectacle vivant pour rien. Il y a ces vibrations du direct, c'est après les premières c'était attends quand même on n'a pas parlé de ça mais ça c'est les premières années, toutes premières années, c'est à peu près au même moment je pense, primaire, les choristes c'est sorti quand je dirais peut-être 2004 un truc comme ça, mais
okay.
Bon à la louche. Tous les enfants de l'école du coup veulent devenir les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et je me souviens avoir chanté Caresse sur l'océan au club Mickey à Cabourg. Donc première, et franchement je suis tout petit, hein. Je te montrerai la photo après, je suis vraiment minuscule. Et ensuite CM2, fête de l'école, où toutes les classes de CM2 chantent Belle île en mer de Woolsey. Et en fait, mon meilleur copain d'enfance de l'époque, Geoffroy, c'est drôle comme quoi, tu vois, il y a des trajectoires. Aujourd'hui, il est maire d'un village à côté de Rambouillet, tu vois. Comme quoi, les trajectoires se dispersent. Et Geoffroy devait être celui avec le micro en mode soliste qui donne le la un peu à toutes les classes. Et en fait, il a trop les jetons. Et du coup, je me retrouve avec le micro, moi. et avec une copine qui s'appelle Guillaume, qui est à côté, tu vois. Et du coup, première fois aussi où, tu vois, il y a ce... ce plaisir, quoi. Vraiment, je me souviens de peu de choses parce que c'est flou, mais d'avoir pris plaisir. Ouais.
D'être, d'être face à un public.
Exactement, ouais. Et puis, tu sens que c'est des ondes. C'est drôle, mais ce côté mathématique, moi qui suis pas du tout... clairement, ça a été la croix et la bannière, les maths dans ma scolarité. Mais tu sens cet aspect plutôt physique, je dirais, des ondes musicales où ça passe quoi entre nous.
Trop, enfin, vraiment très marrant. Ouais. Pour revenir un peu plus tôt, mais en fait, comment tu arrives à te rendre compte que t'es capable de créer, que t'as envie de créer? Tu sais, tu disais, bah, moi, j'ai pas juste envie de refaire les morceaux, quoi. Tu vois, je me rends compte assez rapidement que, en fait, je peux sortir de là, mais t'es tout petit, enfin, tu vois, t'es tout gamin.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui te pousse à
j'ai
te dire...
J'ai 10 ans, je pense, à ce
ouais,
moment-là.
Mais enfin, tu te rends compte. Moi, j'ai fait du piano pendant 10 piges,
Mais j'étais pas très doué hein, dans ce que je faisais.
Mais peu importe.
Mais par contre, mon souci, c'était de faire mon truc.
Et
du coup, de convertir ce peu de choses que j'avais dans les doigts dans des chansons, tu vois.
T'autorisais cette liberté, quoi.
Ouais, parce que ma prof me le permettait aussi un peu et que encore une fois, tu vois, elle a été bienveillante au regard de mon gros baobab dans la main. Mais ouais, c'est ce qui me plaisait. C'est ce qui me plaisait de tirer... des harmonies, des premières notes, des premières mélodies, des choses qui m'appartenaient un peu.
Ça, c'est ça me scotche. Vraiment, là, je me dis, bah, c'est là sans doute qu'il se passe un truc à cet âge-là où. Moi, je te dis, j'ai toujours fait les partitions, quoi, tu vois. Parce que moi, sortir de la partition, c'était pas réussir, quoi, tu vois. Et puis, j'ai jamais eu ce truc de me dire, tiens, essaie de faire autre chose, quoi, tu vois.
Mais c'est intéressant parce qu'en musique, il y a souvent ce débat entre. À la fois peut-être musique classique et musique actuelle, mais aussi du coup entre interprète et créateur.
Ouais, bien sûr.
Et finalement, ça me passionne, ça, toutes ces questions philosophiques autour de l'art. Et en même temps, les deux sont indissociables. Tu vois, on en parlait. Ars, c'est ça vient de techné, je crois, en grec. C'est technique, savoir. Donc, t'as quand même ce truc de savoir-faire, de maîtrise technique. Et en même temps, justement, là où intervient la création, il y a cette part d'imprévisibilité. Et souvent, il peut y avoir ce débat-là hein, où parfois, t'as des instrumentistes qui sont excellents. Mais qui sont pas capables de créer. Et c'est deux choses différentes. Et parfois, tu as des gens qui créent des choses formidables, mais techniquement, qui sont pas aboutis ou en tout cas, qui sont pas suffisamment travaillés. Mais du coup, l'un va pas sans l'autre.
Ouais,
tu t'en rends compte aussi.
Oui, parce que de ce fait-là, tu es quand même obligé à un moment donné de savoir jouer du piano correctement pour pouvoir jouer correctement tes créations, quoi.
Ouais.
Quoi qu'il arrive.
C'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, tu restes à la même étape. Et en fait, non, il y a un champ des possibles, de progrès qui est infini.
Tu fais quoi comme étude post-bac? Sciences sociales, j'ai vu sur ta page Wikipédia.
Ouais, j'ai fait des sciences sociales au début, une licence en sciences sociales. Moi, je sortais d'un bac ES et j'étais.
C'est les vrais, les bacs ES.
Bah, c'est surtout peut-être ceux qui ne savent pas quoi faire. En tout cas, tu sais, c'est les filières un peu les plus générales qui englobent pas mal de choses. Moi, j'aimais bien ça, cet esprit de curiosité. Et en même temps, vraiment, pour le coup, je ne savais pas quoi faire précisément. Donc, je suis allé dans une licence qui était tridisciplinaire. Avec des sciences politiques, de l'économie et de la sociologie. Et ça m'a vachement plu. Mais je pense que j'étais pas assez grand pour faire des études, quoi. Tu sais, il y a toujours ce côté-là où c'est bête parce qu'aujourd'hui, c'est des choses que je me remets à relire. J'ai relu, pendant le premier confinement, des cours de fac.
Ah yes. Tu le relis avec un autre œil.
Ouais,
de cette
et je me suis dit, mais c'était passionnant. Pourquoi tu foutais rien? Et
parce que en fait, parce que c'était des cours.
Bah c'est ça. Il y a peut-être un truc de principe.
Non, ou peut-être, comme tu dis, on vient à cette histoire de maturité, mais je crois que ouais. J'étais pareil. Hein. Il y a ce truc de... Tu ne te rends pas compte de la matière que tu as entre les mains. Ouais. Quoi.
Et en même temps, qui a commencé déjà à me bouleverser, tu vois. Je me souviens, troisième année, sociologie des religions. Clairement, oui, ça a été... On parlait des paliers de conscience. Ça a été un petit palier. Mais ouais... Et après, je suis rentré dans une deuxième licence, Master 1, et après j'ai arrêté. Et là, c'était médias et communication. Je voulais trouver un lien avec la musique, un peu.
Ok, on va revenir à ça, mais sociologie des religions, quoi ? Pourquoi un palier ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, alors moi, j'ai grandi dans un univers catho.
Ah, on y vient, c'est intéressant.
Ouais. Mes parents sont croyants... pratiquant, mais bon, pas... pratiquant cool, tu vois. On parle souvent de la notion de catho cool, c'est marrant.
Ouais.
Bon, en tout cas, c'est pas des zélés, tu vois, de la religion. Mais j'ai grandi là-dedans, et je suis allé jusqu'à ma confirmation, quand même.
Ah ouais.
Seconde, ouais. Et,
Donc, catéchisme.
Ouais, ouais, ouais.
Les valeurs judéo-chrétiennes.
Ouais. Et derrière ça, il y a aussi vachement de beauté. Et, tu vois, je nie pas tout en bloc, mais c'est vrai que maintenant, je suis sorti de... et justement, cette année de socio des religions m'a remis en perspective toute la dimension humaine aussi de la religion et de son utilisation. Et c'est en ça où je me sens assez spirituel, tu vois, dans ma vie, notamment par le métier que je fais. Parce que c'est quand même un métier qui pose plein de questions, quoi, sur pourquoi les ondes, mais tu vois, pourquoi les émotions, pourquoi... Enfin, c'est quand même c'est assez foufou, quoi. L'idée de faire de la musique et de faire passer des choses à travers ça. Mais par contre, je me sens pas plus du tout religieux.
T'as la sensation que ça t'a bridé par certains aspects, cette éducation ?
Alors, pas mon éducation, mais par contre...
Pas l'éducation religieuse,
ouais,
quoi,
ouais,
je veux dire,
ouais, oui. Bah, pas l'éducation religieuse que m'ont transmis mes parents, mais par contre, l'à côté. Et tout le lien, en fait, au social. Et ça m'a dégoûté, par contre. Parce que... un milieu, justement, catho, qui pouvait être tradit et en fait complètement opposé aux valeurs qui voulaient donner de charité, de tolérance, d'accueil, de bienveillance, enfin de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait sortir de ça, surtout. Mais en même temps, comme j'ai grandi avec, je comprends. Mmh. Et donc, je respecte. Mais je suis assez amoureux des valeurs de laïcité, en fait. Tu vois, j'aime bien ça. J'avoue, je trouve ça assez bien d'être dans un pays comme celui-là, même si évidemment ça soulève énormément de questions.
Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. Très intéressant.
Ouais, c'est vrai que j'en parle très. Enfin, j'en ai jamais parlé de.
Ah bah écoute.
De cette. De cet univers.
Ben oui. tu m'as parlé de tes paliers, en fait.
Ouais,
c'est quoi ton palier d'après ?
Ben alors, il y a plutôt des paliers avant.
Ok.
Il y a un premier palier à mes 18 ans, 17-18 ans, où j'ai ma grand-mère qui décède. Et donc, je pense que c'est un premier palier de conscience. Je crois que j'ai commencé à ce moment-là à penser par moi-même. Tu sais, j'arrive à faire le distinguo entre l'avant et l'après, en mode, t'as commencé à réfléchir pour toi, par toi.
Tu veux dire, est-ce que c'est la mort de ta
grand-mère ? Ça m'a donné une maturité, je sais pas, c'est une étape, tu sais, dans ma vie, qui m'a fait rattraper, peut-être, une certaine immaturité.
Ok.
Ouais. Et ensuite, 2 ans après ça, j'ai ma cousine qui décède. Et là, ça a été encore un autre...
Qui avait ton âge ou pas loin,
qui était jeune, qui avait 27 ans,
okay.
Comme les grandes stars.
Ouais.
Et ça, ça a été à nouveau un moment charnière dans ma compréhension du monde, un peu, je crois.
Tu veux dire que te rendre compte que tu peux mourir aussi jeune
Ouais.
Enfin, tu le sais en théorie, je crois, mais quand tu t'en rends compte en pratique,
ouais.
Que ça te touche les gens proches.
Ouais, il y a de ça. Et puis, oui, tu prends... Moi, j'avais jamais connu, tu vois, de maladie ou de décès dans ma famille ou dans, autour de moi. Et donc, en fait, ça te rappelle à... oui, à la fois une préciosité de ce que tu vis et de ce que tu entreprends, et à, du coup, de l'autre côté, tout l'aspect éphémère aussi. Et en même temps, tu vois, je sais que ma cousine, sa vie, elle a été remplie, quoi. Donc c'est intéressant. En tout cas, ça te fait réfléchir sur le deuil, sur la mort. Ça te fait régler quelques petits trucs. C'est des moments évidemment désastreux, mais qui sont très apprenants, en fait. Et quelque part, heureusement qu'il n'y a pas que le deuil, et que derrière, il y a aussi des choses... C'est difficile d'ailleurs à dire et à assumer, mais il y a des choses belles aussi qui découlent de ça.
Toujours.
Dans ta construction, oui. Et dans ton apprentissage.
Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin. C'est
ouais,
ce qui continue
sûr.
À vivre. Quoi,
bah
tu
oui,
vois.
Oui.
Et forcément, si t'en fais pas si t'en fais pas un truc positif, ou en tout cas que tu vas pas chercher le positif
ouais.
Le plus possible. Après, je dis pas que c'est facile. Hein, mais...
bah ouais, non, c'est sûr.
Et ouais, donc t'as l'impression que ce double deuil là te fait passer un cap.
Bah oui,
ça t'amène
ouais,
vers
j'ai
quoi
pris
aussi
quelques années, quelques années d'un coup, et en même temps c'est bien parce que j'en avais en retard.
Donc, t'étais encore un gamin, c'est ça?
Ouais, je pense. Ouais. Mais encore aujourd'hui.
Trop marrant, oui, parce que j'ai vu t'as sorti un super documentaire l'année passée, donc. Tu disais que t'aimais bien prendre le temps, mais t'as sorti quand même deux albums en deux ans, hein, mon
c'est
gars. T'as pas rigolé.
Mais et je m'attendais pas à ça.
C'est trop drôle parce que y a dans ton docu là, donc t'as sorti un super docu. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode si vous voulez écouter pour parler un petit peu de la création de ton dernier
album.
Du deuxième
ouais,
album, donc
ouais.
De l'avant-dernier. Ouais. Et tu t'es en pleine nuit avec tes potes et tu sonnes au tu sonnes aux interphones.
Ah oui, non mais
comme un connard.
Il y a toute une partie de ce docu justement. Qui traite de ça, de cette gaminerie et de ouais. L'ivresse, alors qui n'est pas qu'alcoolémie, mais oui, bien sûr, c'est ce que raconte la chanson Rome Coca dans ouais. Mon deuxième album et tout. Et mais bien sûr, je suis un gamin, mais je revendique ça et je pense que tu vois, on parlait d'Alain Souchon, je trouve qu'il y a une part d'enfant chez lui, moi qui, à la fois qui m'émeut vraiment et en même temps qui fait que. Bah, qui reste à la page et que j'adore ce qu'il renvoie parce que yes, c'est pas de l'insouciance mais c'est de la c'est du sourire c'est ouais je trouve ça très beau.
C'est quoi le palier qui te fait dire ok c'est cool il y a peut-être moyen de faire une carrière?
Alors il y a deux choses qui se sont télescopées. La première liée à la scène, du coup, tu vois, c'est j'envoyais des maquettes et des mails beaucoup trop longs à tout le monde.
Faites des mails courts quand vous faites des mails commerciaux,
ah ouais,
entre guillemets.
Franchement,
commerciaux.
Vendez-vous en peu de lignes.
Ouais.
Et du coup, je pense, rien que pour ça, j'ai dû avoir peu de réponses parce que en fait, c'était trop long. Tu vois, je racontais ma vie et en même temps, je me disais si quelqu'un doit répondre. Et s'il le fait, c'est parce qu'il sera allé au bout, et du coup, tu vois, il sait où je veux aller, enfin, en tout cas, il a compris un peu. Et je mettais à chaque fois deux maquettes en lien. Et un jour, j'ai eu une réponse d'une fille qui s'appelle Alice Vivier, que j'embrasse, qui gère les trois Baudets, qui gérait les trois Baudets à Paris, qui est une salle de concert, historiquement, qui est très chanson et qui a participé à toute une effervescence à un moment de la jeune chanson française. C'est là où ont commencé Brassens, Brel, je crois, Piaf. C'était Jacques Canetti qui avait l'Olympia, je crois aussi. Enfin,
okay.
Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, Jacques Canetti avait aussi les Trois Baudets.
Qui est une salle qui est située vers Pigalle.
Exactement.
En plus, qui est vraiment
voilà.
Très,
donc c'est vraiment dans l'historicité grave du Paris qu'on aime, quoi.
Oh, Paris.
Exactement.
Une petite action.
Oui. Ok, exactement.
Est-ce qu'elle a pas fermé cette salle d'ailleurs depuis?
Eh bah, ben, en fait, elle a fermé entre temps.
Ouais.
Je crois même que c'est devenu un moment une maison close.
Ok.
C'est beaucoup d'approximations historiques. Donc, je vous invite à vérifier tout ça. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fermé pendant un temps et ça a été repris justement par une jeune équipe. Et Alice ensuite a pris le relais. Et donc, elle était programmatrice de cette salle et elle a eu l'envie de retrouver, tu vois, cette espèce de cocon de naissance pour des jeunes artistes chansons, quoi.
Je suis allé voir Ben Mazué, par exemple, là-bas, qui faisait ses premiers concerts là-bas.
Ah bah
aussi,
ouais,
quoi.
Tu vois. Voilà. Et donc, moi, j'avais trouvé, je sais plus comment, l'adresse de la salle et tout. Et donc, j'envoie un mail et puis Alice me répond. Et elle me dit, écoute, j'ai été très touchée par ton mail et tes chansons. Nous, aux Trois Baudets, on fait des soirées qu'au plateau, où il y a un premier artiste qui vient, il joue 15 minutes. Le deuxième joue 25 et le troisième 40. Je crois que c'était à peu près ça. Et elle me dit, si tu veux, tu peux commencer une soirée. Et donc ça a été le premier petit déclic. Et en parallèle de ça, un autre, je me souviens, mon oncle m'envoie un lien pour participer à un tremplin acoustique TV5 Monde. Et il me dit, écoute, participe, faut juste envoyer une vidéo de toi où tu chantes ta chanson en live. Et il se trouve que je jouais dans un café pas mal à ce moment-là, une cave près de Vaugirard. Et du coup, mes potes m'avaient filmé, bref. Du coup, je mets ça en ligne. Zéro retour. Il y a 120 artistes qui participent, je crois. Et zéro retour, je passe complètement à l'as du truc. Et quelques jours après, j'ai un gars qui m'envoie un message sur ma page Facebook musique où il y avait 103 likes et il me dit, écoute, je m'appelle Arnaud, je suis directeur d'une salle de concert dans le Val d'Oise, j'étais parmi le jury, t'es pas pris, mais moi je t'ai mis en premier sur les 120 et je serais curieux de te rencontrer, que tu me racontes un peu ce que tu fais, ta vie, où est-ce que, tu vois, où est-ce que t'as envie d'aller. Et donc voilà, c'est deux choses, ce télescope. Et puis après ça, je vois Arnaud, je le rencontre une première fois, et puis j'étais à la fac, donc il me dit, écoute, vis, fais tes trucs, continue à écrire, t'as le temps. Fini tes études, machin, voilà. Arnaud Monnier, qui avait la salle de l'EMB Sannois, donc du coup dans le Val d'Oise. Et puis donc je fais une première fois les Trois Baudets, et puis une deuxième, en deuxième partie. Et puis je crois que c'est la troisième ou quatrième fois où je joue aux Trois Baudets. À côté de ça, j'étais resté un peu en contact avec Arnaud. Et cette fois-là, au concert, il y a un jeune stagiaire en édition musicale qui est là, qui s'appelle Tom Le Bourris, et qui m'envoie un message après sur ma page, pareil, en me disant, écoute, moi j'ai découvert sur scène, je trouve ça trop cool, machin. Voilà, du coup, c'est les premiers professionnels avec qui je suis en contact. Il n'y a pas vraiment de, tu vois, de feu aux poudres ou quoi, mais en tout cas, je suis comme un ouf, quoi. Parce que moi, dans ma famille, on connaît personne, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas notre environnement, donc je sais pas à qui m'adresser. Je sais pas du tout quoi faire. Si ce n'est de me dire, bah, c'est simple, je fais de la musique, c'est vivant, donc je vais faire des concerts. Et tout part de là. Et après, je dois partir en Erasmus, en Angleterre, à Colchester, dans l'Essex. Et j'y suis parti, d'ailleurs. Et en fait, une semaine avant de partir, je crois, j'envoie des maquettes à ce Tom. Et voilà, je pars en Erasmus. Et c'est drôle, ça, je crois que je l'ai presque jamais raconté. Mais quelques jours avant, avec un pote, pour se marrer, on décide de tenter la nouvelle star. Tu vois, juste pour se marrer, aller dans la file, rencontrer des gens et passer devant un jury, tu vois. Et donc, je passe devant le jury, machin. Je joue, je sais même plus ce que je joue, mais le mec me dit, écoute, je crois que t'as pas trop l'identité pour l'émission, mais j'aime bien, je suis curieux, je te fais passer devant un deuxième jury. Et ils me disent, écoute, ça le fait pour nous, est-ce que tu veux passer à l'étape suivante et tout, théâtre ou je sais pas trop quoi là. Et je lui dis, bah non, je pars en Erasmus, moi. C'était juste pour tester, tu vois. Et du coup, bref, j'ai jamais fait la nouvelle star. Mais je suis parti en Angleterre. Et une semaine après que je sois en Angleterre, je reçois un mail de Tom en me disant, écoute, on te propose un contrat en édition musicale.
Direct.
Ouais, en mode, une fois que je lui ai renvoyé les nouvelles chansons, il me dit, écoute, nous, on y croit, machin. Et voilà, quoi. Et ce qui est alors du coup, ensuite, Tom, ça va être des prénoms, c'est peut-être chiant pour les gens, mais Tom a un copain qui est booker, donc en gros un mec qui s'occupe de faire des tournées de concerts, qui s'appelle Alexandre, et il lui fait écouter mes chansons. Et Alexandre est un super copain de Pascal et d'Arnaud, de l'EMB Sanois.
Ah, ok.
Tu vois, de Arnaud, ouais. Du coup, qui m'avait découvert sur le tremplin. Et en fait, Alexandre fait écouter à Pascal, qui est dans le même bureau qu'Arnaud. Et Pascal écoute et il dit c'est vachement bien ça et tout. Et Arnaud lui dit mais tu te fous de ma gueule, c'est Tim, ça fait un an que je t'en parle, ça fait un an qu'on s'est rencontrés et tout. Il dit c'est Alex qui m'envoie ça, bref. Et en fait, il y a eu un retour à l'envoyeur
c'est dingue.
Où tout s'est télescopé. Et ensuite, Alice m'a proposé une dernière date aux Trois Baudets. Et il y avait Alexandre. Et il y avait. Voilà, tu vois. Et c'est comme ça, ensuite, que. Après une première proposition, finalement, j'ai pas travaillé avec Tom, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre en édition. Mais c'est comme ça que ça s'est envolé.
Ok.
Petit à petit.
Et tu sors ton. T'as un premier EP, c'est ça qui sort ?
Alors, mon premier partenaire, c'est. Arnaud et Pascal, qui finalement sont devenus mes managers.
Okay.
Tu vois ? Et eux, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, eux aussi. C'est pas leur métier, c'est de faire des concerts. Mais je leur ai dit, vas-y, on s'embarque ensemble. Et voilà. Et ensuite.
C'est fou, tu leur fais confiance comme ça, alors que c'est pas forcément leur métier et tout.
Ouais, mais écoute, ils connaissaient du monde. Et puis en même temps, pour moi, c'était assez évident. Okay. Humainement, ça fitait. Mais ça a toujours été là-bas. C'est vrai qu'on peut oublier que, oui, c'est du travail. Mais moi, j'essaye que ce soit à chaque fois aussi des relations d'amitié. Parce que t'as besoin d'un socle, tu vois, ouais.
Ça facilite en tout cas.
Ouais, je pense que ça aide pas mal. D'avoir la confiance dans des gens qui t'entourent dans ce métier. Et donc Alexandre, c'est le premier partenaire professionnel un peu dont je m'entoure, qui lui, du coup, est booker et en fait me programme plein de premières parties. Et avant même de sortir mon premier EP en 2016, où il y avait 4 morceaux, puis mon premier disque, en fait j'ai beaucoup tourné. En première partie, dans des festivals, et ça a été la plus grande leçon, quoi.
Construit ta notoriété là-dessus, quoi, c'est ça ?
C'était même pas une notoriété, mais ça a construit, comment dire,
ton identité ?
Ouais, complètement. Mon identité et ma condition d'artiste, c'est-à-dire concevoir le métier que ça pouvait être, travailler un rapport au public. Aller partout en France. Et en fait, tu construis petit à petit des gens qui m'ont suivi et je crois qui ont adhéré par la scène et du coup qui restent très fidèles parce que tu les embarques par un moyen qui est direct et qui est sans image, qui est sans phare, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de marketing. T'es tout seul devant le rideau avec ton piano, tu peux pas mentir, quoi. Il y a pas de triche.
Tu as la sensation que tu t'es vraiment construit comme ça grâce à la scène, c'est ça ?
Ouais, beaucoup, ouais.
Et qu'est-ce que t'as envie de dire à ce moment-là au petit Tim qui a 12 ans et qui est un petit gars et qui est en train de se faire un peu bolos, quoi ?
Écoute, de toute façon, les choses se passent parce qu'elles se passent et que c'est comme ça. Et qu'il faut pas... Peut-être que si ça avait pas marché, pas de regret, j'aurais eu une autre vie, tu vois. Okay. Et peut-être qu'elle aurait été trop cool aussi. Je lui dirais pas à tout prix, tu sais, genre, crois en tes rêves, crois machin. Non, juste, fais ta life, tu vois. Et ta life, en fait, elle est celle que tu dois avoir. Enfin, en tout cas, je sais pas s'il y a un libre arbitre, mais je crois qu'il y a quand même un petit levier d'action. Ouais. Et si on a envie de... C'est vraiment une question d'envie, mais pas que. Il y a aussi des hasards, tu vois. Je veux pas mentir en disant si t'y crois, ça va marcher. Il y a pas que ça. Il y a plein de choses qui fourmillent et qui s'épaulent entre elles.
Bah, ton oncle qui t'envoie ce truc c'est pour TV 5 Monde, quoi.
Exactement, tu vois. Ça part de rien, mais c'est comme, je sais pas, un moment... tu décides de déménager, en fait tu vas à Marseille et puis là tu rencontres ton gars ou ta meuf et puis en fait c'est parti et ça se trouve t'aurais été à Nantes, t'aurais rencontré une autre personne. Moi je crois beaucoup à ça, dans l'âme sœur, je pense qu'on peut se mettre avec des millions de personnes potentielles dans le monde.
Des millions, quand même beaucoup, c'est vrai, ouais, tu penses?
Franchement, on est 7 milliards.
Ouais, c'est vrai.
Je pense qu'il y a bien, en tout cas, il y a bien 300 000 personnes avec qui je suis compatible. C'est un peu vertigineux. Mais alors, du coup, je sais plus où...
En fait, je voulais passer direct à cet album, enfin au deuxième album, en fait. Tu vois que tu sors juste avant cette pandémie folle, quoi. Ouais. Parce que ton album, il sort janvier 2020.
Ouais. Je commence la tournée le 7 mars. Je fais le premier concert. Et je rentre à la maison.
Qui est un peu en plus un album où tu parles d'environnement. Voilà, il y a ce truc fou qui est cette pandémie. Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, comment tu vis ce truc, en fait? Parce que j'imagine que tu avais sans doute une tournée prévue à un moment donné. Ouais. Comme plein d'artistes, tu t'es fait... Ça dégage, quoi. Ouais. Ça rentre à la maison.
Ouais.
Comment tu as vécu cette période-là, toi?
Alors, au début... de la frustration, beaucoup, bien sûr. Parce que tu travailles pendant de longs mois, sur à la fois un disque qui sort, que tu proposes, qui t'appartient plus, et du coup, t'as envie qu'il vive. Donc ça, c'est un peu triste. Et puis de longs mois de travail pour la scène aussi. Tu vois, on avait créé tout un show. J'étais accompagné par deux violoncelles sur scène. Donc on avait... composer, éditer les partitions sur tout le set, tu vois. Alors là, je suis encore accompagné d'un violoncelle sur la prochaine tournée, donc tout n'est pas acheté, évidemment, mais tu vois, c'est énormément de temps, d'énergie. Il y avait aussi une création vidéo, enfin c'était vraiment bref, tu travailles, ça tombe à l'eau, donc il y a de la frustration, ça c'est sûr. Et puis, c'est marrant, mais même moi, j'avais pas conçu cette année-là comme ça. Je l'avais anticipé en mode, je vais faire une tournée, même de 2 ans, 2 ans et demi, et après ça, j'arrête.
Musique?
Ouais, pour un moment.
Ok.
Tu vois, pas définitivement, parce que j'arrêterai jamais, mais ouais. Je sais pas, j'avais envie de prendre des années, parce qu'en fait, je fais ça concrètement depuis mes 20 ans.
Oui.
Même 19, si, enfin, non, ouais, 20, 21, où ça devient, tu vois, palpable. Et j'avais envie de découvrir d'autres trucs. J'avais envie de passer mon permis, pardon. J'avais envie de voyager, de rencontrer, de vivre d'autres choses, de sortir un peu de cet environnement musical, 100% musical. Et finalement, non. Donc, en plus, c'est drôle, mon premier concert de mars, le seul d'ailleurs, de la tournée, je le fais sous mononucléose. en mode, mais fatigué de l'espace, avec angine carabinée, enfin bref. Et finalement, ce premier confinement, il arrive presque comme un repos. Et moi, c'était chanceux pour moi. J'ai fait 15 premiers jours dans le domaine vignoble d'un copain, ce qui est très dangereux. Ne vous confinez jamais sur un vignoble, parce qu'on fait des soirées à la cuve. Sauf que tu sais, une bouteille, une quille, tu la bois, c'est fini. La cuve, non.
C'est limité.
C'est l'enfer. En plus, ils font du vin que j'adore, du vin nature, tu vois, tout ce qu'on aime quand on est un bon petit bobo parisien.
Ouais.
Mais j'adore, c'est vraiment le vin que j'aime, gourmand, goulayant, joyeux, tout ça.
Donc et du coup, pour tout ce qui est alcoolémie, ouais, il fallait partir à un moment donné.
Ouais, il y avait un peu de ça. Mais en plus, du coup, la famille de mon pote débarque. Et en fait, on peut pas rester aussi nombreux. Donc, c'est pas mal. On a une excuse. Au bout de 15 jours, on change de lieu de confinement. Et là, c'est à nouveau n'importe quoi. Je me retrouve dans une maison. On arrive à trouver une maison. Je suis avec un couple de copains dans les Landes, dans la campagne.
J'étais confiné avec un couple, toi. Ça, c'est chaud.
Ouais.
C'était des vrais copains.
C'était ouais, c'était super copains. Et franchement, c'était parfait. Et du coup, pendant 3 mois, parce qu'on est resté jusque tout début juin, fin mai, tu vois, donc on est resté même plus que ce qui était demandé. Et c'était le bonheur un peu. Je cuisinais beaucoup, je faisais plein de musique. C'est là où sont nées les premières chansons de ce troisième album. Dans un certain esprit de béatitude, de paix, de tendresse, de retrouver ça, et en même temps de manque. Et donc c'est aussi pour ça que je crois que c'est un disque qui est plein d'impressions de vie et d'humanité, de vouloir croquer le truc, tu vois, très hédoniste, parce que ça, je l'avais plus, quoi. On l'avait plus.
Ouais, ouais.
Mais pourtant, c'était très doux. C'était vraiment un doux moment où, tu vois, on travaillait beaucoup toute la journée, on se retrouvait le soir, on se matait des séries, on se commandait du vin, on se faisait à manger, grosse balade, du coup, aussi, donc plein de sport. Franchement, c'était une belle qualité de vie. Donc, non, j'ai vécu ça comme un petit prince.
C'est un disque qui sent bon le soleil, en fait. Je trouve vraiment que c'est un disque estival. Enfin, je sais pas si tu l'as conçu comme ça dans ta tête, mais ça.
Petit à petit, ouais.
Ouais, tu sens que c'est vraiment un disque que tu as envie d'écouter.
Et je me suis battu pour qu'il sorte cet été.
Ah ouais, c'était pas prévu.
Bah, en fait, c'est souvent les disques, ça prend plus longtemps à faire. Et du coup, les maisons de disques aiment vraiment bien anticiper, et tu vois, avoir de longs mois devant elles pour voir ce qui arrive. Mais j'ai bataillé et j'ai pas lâché. J'ai bossé comme un ouf, mais je suis trop heureux parce que c'est un disque que je voulais qu'il vive cette saison-là, la saison estivale. Tu vois, que les gens partent en vacances avec, partent cet été avec. Les autres disques sont sortis à l'automne et en hiver, et c'était parfait. Il correspondait à ces atmosphères-là. Mais là, je trouvais ça trop dommage de le sortir à l'automne ou en hiver, tu vois. C'était un disque qui... un disque d'été parce que de retrouvailles. Et on y croit.
T'as d'ailleurs ce clip où qui est un plan séquence. Enfin, c'est ton premier clip de cette-là.
Alors ça, c'est une lyrics vidéo. On l'avait même pas prévu.
Ah ouais?
En gros, je suis allé faire des photos. Franchement, quel métier de chance. Une fois que le disque a été fini, je suis parti en Italie. Avec Diane Sagnier,
je connais très bien,
copine,
tu sais.
Photographe. C'est vrai?
Bah oui, on a depuis 10
génial.
Ans, Diane.
Ah, trop bien. J'aime beaucoup Diane.
Ouais.
On est partis tous les deux en Italie. Moi, j'ai pris un train couchette. Et déjà, tu vois, un esprit de voyage qu'on n'a pas vécu depuis des mois. Avec mon attestation bien précieuse de dérogation de déplacement. Et on est allé à Naples faire des photos et sur la côte amalfitaine et à Procida et en fait sur le port de Procida à Marina Coricella de l'autre côté de l'île, on a il y avait ce petit port et en fait on s'est dit vas-y le clip sort pas tout de suite mais comme la chanson sort autant faire une lyrics vidéo et on a tourné ça où je danse en plan séquence mais ouais exactement.
On sent que t'as besoin de dépenser, tu vois, dans cette...
Ah ouais, c'est clair.
Tu danses et tout.
Trop de choses à extérioriser.
Il y a un autre titre dont je voulais te parler, et puis après je vais te laisser aller, mais tu fais chanter 3 meufs dans ce titre qui s'appelle L'Aventura, c'est ça?
Non, il y a 3 chanteuses sur le disque.
Ah oui, pardon.
Mais L'Aventura, il n'y en a qu'une.
Il y a qui, alors? Mais alors, attends, j'ai pas... Ok.
Il y a 3 chanteuses sur le disque.
Ouais, donc t'as, ouais, tu fais chanter Anaïs de Moustier,
ouais.
C'est ça?
Ouais.
qu'est-ce qui t'a donné? Alors, t'as Aurélie Sada aussi?
Ouais, des Brigitte.
Voilà.
Et une copine Marguerite qui s'appelle San. C'est son projet de musique. Et qui elle sort ça tout juste là.
Qui sont toutes les deux a priori donc musiciennes. Donc il y a un truc un peu plus naturel.
Ouais, ouais. Et Anaïs, non. Ouais. C'est marrant. Non,
elle chante sur quel titre, pardon?
Parce sur que... l'Aventura.
Ah, mais c'est ça. Ok,
ouais,
d'accord.
Ouais. Et je suis trop content de cette aventure avec Anaïs. C'est marrant parce que moi j'ai un rapport très schizophrénique avec les réseaux sociaux.
Ok.
Et je suis. Quand est-ce que j'ai supprimé mes applis? En octobre. Fin septembre, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire vraiment, il n'y avait plus sur mon téléphone. Et je les ai retéléchargés, je crois, fin janvier, un truc comme ça.
T'en avais marre?
Ouais. Idéalement, dans le meilleur des mondes, moi j'adorerais ne plus être dessus, mais en fait c'est indispensable à la fois pour le lien à mon public et en même temps la gestion de mon métier, tu vois. Mais il faut savoir le gérer et c'est pas toujours facile. Et moi je crois que j'étais arrivé à un bout, tu vois, où j'avais besoin de retrouver du temps et de la sérénité. Et c'est pas des applications qui m'amènent beaucoup de sérénité.
Tu scrolles trop,
ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, là je m'y suis remis parce qu'évidemment période de promo, d'album, tout ça, et puis même de voilà, il faut revenir à ça. Et je me rends compte que je perds du temps maintenant que je les ai à nouveau, parce que j'y passe trop de temps. Et du coup, avec ce rapport-là, schizo, paradoxalement, Anaïs d'ailleurs, qui a plus Instagram maintenant depuis, elle a supprimé son compte.
À cause de toi ou grâce à toi?
Bah, je sais pas, peut-être un peu des deux. Et mi-octobre, novembre, elle m'envoie un message sur Instagram, tu vois, avec sa page. Et elle me dit, écoute, je découvre tes chansons, j'ai vu que tu faisais un concert à Paris, là, je sais pas s'il est maintenu, mais je kifferais trop venir et tout. Et moi, je suis là en mode, j'ai plus l'appli, mais je la retélécharge pour faire un post, genre l'automne. Je vois le message d'Anaïs, et je lui dis, écoute, le concert est peut-être maintenu, tu sais quoi, je te file mon num, envoie-moi un texto, et je te mets une invite, et bref, bon. Et puis... parce que voilà, moi j'avais vu ses films, tu vois, j'adore l'artiste qu'elle est, ce qu'elle représente. Donc il y avait une correspondance qui faisait plaisir en tout cas. Et finalement, elle, en discutant, elle me confie qu'elle aimerait bien chanter. Et petit à petit, il se trouve que j'ai une chanson que je fais un peu. Je crois que l'Aventoire, c'est une des dernières que je fais vraiment en janvier, tu vois. Et je lui envoie. Je lui dis, écoute, ça te tente de chanter dessus. Et on a fait un essai. Je suis allé boire des bières et chez elle. Et on l'a tenté en piano-voix. Et ça, c'était trop bien. Donc voilà, on s'est tapé dans la main. Et après, ouais, je suis trop content qu'il y ait plus de collaboration sur ce disque. Il est né aussi comme ça du fait d'être en manque,
ouais,
de musique à plusieurs et de partage. Je crois que j'ai eu envie d'intégrer des gens, à la fois des instrumentistes, il y a des cordes, de la harpe, de la flûte, c'est plus organique que ce que j'ai pu faire, et des chanteuses et deux copains pianistes aussi, Thomas Enko et Alexandre Tarot.
Tu mets aussi régulièrement des moments, on en parlait là juste avant d'enregistrer, mais des moments de bruit d'ambiance en fait. Ça te vient d'où? Comment tu fais? Tu te balades avec ton téléphone et t'enregistres, c'est ça? En mode dictaphone ou vraiment?
Il y a un peu les deux. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée de cinématographie dans la musique. De placer en tout cas un espace, de placer celui qui écoute dans l'espace. Ça, j'adore. Pavan, avec qui je réalise mes disques, Damien, il est mixeur son dans le cinéma à la base. Et donc, voilà, on a cette fibre en commun qui nous plaît bien. Et ouais, j'aime beaucoup, ça installe quelque chose. Ça pose, c'est comme un regard auditif. Et j'aime bien ça. Et après, comment on fait? Ouais, c'est parfois un coup de téléphone, parfois un zoom. Sur La Course Folle, bah, le disque s'appelle La Course Folle, ouais, mais il y a une chanson qui s'appelle La Course, ouais, Folle, éponyme, et en fait, il y a un claquement d'horloge qui est à la place de l'afterbeat, tu vois, en snare. Et ça, juste, on a enregistré une horloge que j'avais chez moi qui sonnait trop bien, je trouve. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça qui étoffent un peu.
Merci beaucoup, Tim.
Merci, Fabrice. Écoute,
ça fait une heure et quart qu'on parle.
Moi, j'aimerais bien un jour qu'on fasse ça pour toi.
Ah bon ?
Bah ouais.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas, tu parles tout le temps des gens. Et moi, je pense que ce serait vraiment bien qu'on parle de toi aussi.
Ok, bah écoute, merci.
Si un jour je fais. Parce que pendant le. Premier confinement, ouais. J'ai fait un podcast avec ma sœur.
Ouais.
Qui est dispo s'il y en a qui ça amuse. À chaque fois, on avait un invité par épisode et on réfléchissait sur le temps. Et voilà, le podcast s'appelle Temps retrouvé, temps bouleversé.
Ok.
Et donc, c'était
je mettrai le lien dans les notes pour les
gens qui veulent écouter. Si ça vous dit par curiosité. Et on avait un invité en commun d'ailleurs, un copain, Vincent Delerme.
Oh oui. Quel bon moment avec Vincent.
Ah ouais, putain, c'est la marade. Hein. Et enfin bref, voilà. Et du coup, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour en faire d'autres. Donc, si personne te donne le micro avant,
ah bah écoute, avec plaisir.
Je te le filerai.
Ouais, ça me toucherait vraiment. Merci beaucoup, Tim. C'était
merci,
cool.
Merci, Fabrice.
À plus.
Ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.